Vous m'en direz des nouvelles?
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. C'est un thriller palpitant, un livre d'aventure qui raconte une traque sur fond de secrets de jeunesse et de menaces pour les libertés. Peut-être aussi un roman d'anticipation, mais qui plonge ses racines dans une tradition multiséculaire, celle des pentes, gorgées de soleil et de spiritualité du mot Athos, cette sept montagnes où femmes et femelles sont interdites et où pourtant le héros du roman emmènera sa petite fille en la travestissant en petit garçon. C'est aussi un roman érudit qui porte haut l'étendard de la culture et en particulier l'héritage humaniste de l'Antiquité. L'antiquité grecque et du christianisme, par ses récits bibliques ou mythologiques, par son apport si fécond aussi à la langue française. C'est enfin un formidable roman sur la paternité et la transmission d'un père à sa fille, mais aussi sans doute de la fille à son père, car chacun et chacune apprend de l'autre. Trouver refuge, de Christophe Onodivio, est paru chez Gallimard, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Christophe Onodivio.
Mais bonjour, merci de me recevoir.
Avec grand plaisir. Alors avant de gagner le mont Athos et de rejoindre l'aventure de Sacha, Mina et Irène, on va s'arrêter un instant sur le contexte autour duquel vous avez bâti votre intrigue. Nous sommes en 2027, Elon Musk vient de recevoir le prix Nobel de la paix, si, c'est écrit à la page 58 du roman, et la France est dirigée par un chef de l'État que tout le monde appelle Papa. Son parti, d'ailleurs, il s'appelle La Famille. Alors, Papa, c'est un chef de l'État paternaliste, comme son surnom le laisse penser, protecteur, peut-être même un peu trop, et c'est un euphémisme. À partir de quel matériau est-ce que vous avez imaginé le personnage de Papa ?
À partir de ce que j'ai vu depuis plusieurs années, c'est-à-dire se développer en Europe, c'est-à-dire un durcissement de certains pouvoirs dans des pays voisins, en Pologne, en Italie. Et d'ailleurs, ils ont replongé une deuxième fois, mais il y avait eu Matteo Salvini, oui, avec ce côté, en gros, tout ce qu'on appelle le national-populisme, c'est-à-dire ce mélange de nationalisme et puis d'appel, évidemment, aux instincts de peur, hein, d'ailleurs, dans les populations. On voit aussi, on a vu en Espagne aussi l'émergence d'un parti qui s'appelle Vox. Évidemment, la situation française et aussi globalement un climat de peur qui a été, je pense, aussi finalement favorisé aussi par la pandémie, en fait, qui nous a aussi plongé dans une situation inconnue et faire des choses qu'on n'aurait pas pensé faire, cette obéissance pour le bien, hein, de tous, évidemment. Et donc j'ai imaginé, je ne pouvais pas faire se dérouler l'histoire en 2022 parce qu'on connaît la situation politique présente, mais donc j'imagine que dans 5 ans, la France, à son tour, plonge dans un régime donc national-populiste, pas ce que j'appelle une tyrannie douce en empruntant l'expression à Tocqueville, c'est-à-dire que au fond, elle se présente comme le bon sens, la protection des gens, c'est pour votre bien. Voilà, que voilà. Vous êtes
et la population y adhère, hein, Christophe Onodivio.
Bah, c'est démocratique. Hein. Il a été le papa, donc Alexandre S. dit papa, parce qu'en fait, papa, on l'appelait comme ça quand il était jeune, au tout début de sa carrière politique, en disant non, on a besoin d'un papa, et c'est pas ce petit jeune qui va pouvoir incarner le rôle. Et finalement, il a tellement bien incarné le rôle qu'il a repris ce sobriquet de papa. Et au fond, oui, les gens, pourvu que le confort minimal soit là, que la protection soit là. Finalement, par exemple, ils sont encouragés à se dénoncer, mais c'est pour le bien du vivre ensemble.
Voilà, il y a une application d'ailleurs, voilà, sur le téléphone portable, enfin le téléphone intelligent. On sent bien d'ailleurs dans vos lignes que le mot intelligent, vous le prenez avec pas mal d'ironie.
Oui.
D'ailleurs, il y a une application qui dit « tu le fais aussi pour les autres ». C'est le slogan de cette appli sur le portable.
Et la grande phrase de papa, c'est « il faut parfois moins de liberté pour préserver la liberté ». Mais au fond, pour répondre à votre question, c'est un État qui, moi j'ai commencé ce livre il y a 5 ans, il y avait déjà ça du côté de chez Viktor Orban, du côté de la Hongrie, du côté de l'Europe centrale, et puis on a vu ce phénomène se propager, mais il y a aussi pas mal de trumpisme aussi chez papa, notamment, je pensais pas, quand je rends mon manuscrit en janvier et que j'explique que dans la France de papa, on se questionne sur le droit à l'avortement, qui sera peut-être interdit, supprimé, bon, bah, quelques semaines, quelques mois après, c'était le cas dans certains États américains.
Oui, alors donc nous,
cet état de peur qui m'a fait aussi vouloir réagir par le roman. Et surtout, il me fallait ça comme toile de fond pour placer mes personnages en cavale.
Voilà, vous parliez de l'avortement à l'instant. Nous, on connaît les fémines dans l'actualité européenne et même au-delà des frontières de l'Europe. Vous avez inventé les sémines, en l'occurrence.
Oui, donc là, les sémines qui sont une association de femmes pro-vie, comme elles disent, très natalistes, puisque dans la France de papa aussi, on explique que au fond, finalement, le rôle des femmes est peut-être d'aller à la maison, parce que faire des enfants, c'est important pour la nation.
Et afin d'éviter le grand remplacement, on pourrait dire ça comme ça.
Il y a cette peur-là, effectivement, que les White Lives Matter, voilà, en fait, on retourne, c'est un régime qui retourne, en fait, toute la sémantique actuelle pour la tourner à son avantage. Donc c'est un pouvoir conservateur, national populiste, et qui évidemment entame une grande partie des libertés des gens, notamment la liberté d'expression, la liberté de création aussi, puisqu'un artiste qui offense, qui choque, eh bien évidemment les sémaines arrivent en disant mais manifeste, hein, c'est pareil, toutes dépoitraillées avec des enfants abouchés à leur poitrine, donc elles se posent vraiment en défense de la natalité, plutôt blanche d'ailleurs, et en fait on ferme les galeries d'art qui présentent des artistes qui choquent, parce que choquer les gens c'est pas bien, donc faut comprendre, voilà, faut pas offenser, faut pas choquer, donc on invite les artistes à plutôt travailler dans d'autres directions. Et pour les profs c'est pareil, les cours d'histoire sont révisés puisque l'histoire, il y a une histoire officielle qui se met en marche doucement mais sûrement.
Alors, il y a aussi un élément que vous n'avez pas encore évoqué, Christophe Nodivio, c'est la question de l'identité. Et voici ce que vous en dites. Alors, on est assez loin dans le livre, à la page 205, très court extrait.
Cette hystérisation de l'assignation à l'identité, à la couleur de peau, à la religion pratiquée, colportée par les extrémistes des deux camps, dont les troupes augmentaient, avait contribué à l'élection de papa. Ce dernier avait pu capitaliser sur les radicaux de toutes les couleurs qui avaient peu à peu accrédité dans l'opinion publique la thèse de plusieurs sociétés cloisonnées qui ne se touchaient plus et ne devaient plus se toucher, avec l'aide des idiots utiles habituels qui ne savaient qu'asséner la phrase type « il faut comprendre ».
Alors ces quelques lignes là, Christophe Nodibio, on se dit qu'il y a deux choses en fait. Un, on appuie trop sur les questions d'identité, et deux, la polarisation du débat, l'affrontement entre les deux extrêmes ne joue pas finalement en faveur des idées humanistes centristes.
Non, d'ailleurs on l'a vu effectivement encore une fois, hein. Moi j'imaginais pas être autant dans le débat en commençant le livre et puis même en le terminant, mais quand on voit par exemple Giorgia Meloni en Italie, qui dit il n'y a pas de voix médiane, hein, c'est son expression, il n'y a pas de voix médiane où on dit oui ou on dit non. Il y a aujourd'hui, il me semble, hein, en tout cas c'est aussi dans ce climat que j'ai écrit le livre, une sorte, on est sommé de choisir entre deux privations de liberté. Au fond, il faudrait choisir son camp, hein, entre un national-populisme et puis une forme de quelque chose qui se présente comme du progressisme et qui pour moi n'en est pas. On voit aux États-Unis certains livres, par exemple, on peut plus les étudier au nom du progrès. Et pour moi, le progrès a toujours été lié au débat, justement, à l'humanisme, qui n'est pas un vain mot, hein, mais qui est justement un courant qui, depuis la Renaissance, a permis justement de provoquer le débat, de confronter des idées. Pour moi, on sort grandi de l'échange, du débat, et dans le monde de papa, ce débat n'est plus possible. Les plateaux télévisés sont composés de gens qui pensent exclusivement la même chose, où toute parole dissidente est immédiatement mise à l'index. Donc c'est aussi une façon, ce que je décris, c'est que le camp finalement qui a constamment parlé de communauté a servi presque de courte échelle au courant de papa qui a pris le pouvoir. On l'a vu un peu aux dernières élections aussi, c'est-à-dire que on a d'abord parlé de la victoire en fait d'un camp de gauche, ou plutôt d'extrême gauche, et puis finalement on a vu que la vraie force souterraine qui gagnait en millions de voix, c'était la force conservatrice. Donc pour moi il y a deux phénomènes aujourd'hui de radicalisation qui au fond provoquent le triomphe de l'un d'entre eux et plutôt celui de le camp conservateur. Et ce qu'on voit encore une fois en Suède, qu'on a vu quand même il y a quelques semaines en Suède, et qu'on voit là en Italie. Et c'est vrai que je ne pensais pas... Moi, j'ai écrit un... Au fond, il s'appelle Papa, oui. Trouver refuge. Et on voit en Italie qu'il s'agit de quelqu'un qui se présente comme une mama, hein, elle le dit. Donc voilà, mama en Italie en 2022, j'espère pas papa en France en 2027.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Sacha et Mina ne se sentent pas très à l'aise dans la France de papa. Alors Sacha et Mina, ce sont des intellectuels, des érudits. Mina est professeure d'université, elle est spécialiste de Byzance. Sacha est philosophe, écrivain, il produit un podcast, il est aussi conseiller pour un feuilleton historique à la télé. Bref, c'est un couple d'intello parisiens qui vivent leur relation.
Enfin, parisiens, ils sont tous nés. Mina est parisienne, lui, il est né au Havre.
Oui.
Il rêve d'écrire un livre.
Refuge, d'ailleurs.
Oui, c'est ça, exactement. Havre, exactement. Le Havre, c'est le refuge. En fait, il gagne sa vie. Il aurait voulu être un grand intellectuel, écrire des livres, des romans. Il met le roman certainement trop haut. Et donc, en fait, son boulot, c'est de commenter l'actualité avec la culture qu'il est censé avoir.
Mais c'est important parce qu'il commente l'actualité justement avec cette culture-là.
Exactement.
C'est-à-dire que aussi bien Sacha que Mina, sont très attachés aux valeurs héritées de la démocratie occidentale, de l'Antiquité grecque, de Byzance singulièrement. Mmh. Et donc, ils sont forcément, si j'ose dire, dans une sorte de résistance intellectuelle à papa. On peut dire ça comme ça?
Oui, parce qu'en fait, lui éclaire l'actualité culturelle, politique ou économique avec sa culture. Et on sent bien que c'est quelqu'un, ils élèvent leur fille dans le respect, dans le goût de la beauté, dans le goût de l'émerveillement, de l'ouverture à l'autre, de la nature. Et puis, ils se questionnent d'ailleurs sur l'éducation qu'ils doivent donner à leur fille. Au fond, dans un monde qui professe que c'est le mot de papa, dans un monde de loup, il faut être un loup, c'est l'un des credos de papa, c'est comme ça qu'il a été élu, en disant en gros, si on est intellectuel ou si on aime la nuance, on est un faible et on ne mérite pas d'ailleurs d'avoir le pouvoir. D'ailleurs, on ne le conquiert pas. Donc, ils se posent des questions sur l'éducation de leur fille qui a 7 ans, Irène, en disant est-ce qu'on ne devrait pas, c'est d'ailleurs la scène qui déclenche la catastrophe, ils sont au lit avec des livres, en train de bouquiner. D'ailleurs, Sacha constate que l'application, que dans son moteur de recherche, en fait, le mot culture a été remplacé par divertissement, ce qui le navre. Il dit à sa fille, est-ce qu'on ne devrait pas apprendre à notre fille à devenir ce qu'il appelle une saloperie, quelqu'un de très dur, de rusé, de dissimulateur, de fermé, au lieu de cette petite fille ouverte qu'on emmène au musée, à qui on raconte des histoires, à qui on parle de la différence. Et la Mina lui donne une sorte de fessée morale en lui disant « Mais là, tu te renies. Et si tu te renies, tu vas devenir comme eux. » Et le lendemain, armé de convictions, décidé à résister, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, comme effectivement un intellectuel ou quelqu'un qui aime la culture, tout simplement. Ils ne sont pas dans un autre monde, ils aiment la culture, ils aiment les œuvres d'art, ils aiment la littérature, mais pas pour en faire étalage, ils aiment ça, ils veulent la transmettre, elle et les professeurs. Et il arrive sur le plateau.
Le plateau d'une émission de télévision, en l'occurrence, et il a une phrase malheureuse.
Que les gens font l'éloge, des ministres qui sont là font l'éloge de l'action très xénophobe de papa qui va défendre la civilisation, il a cette phrase « Papa n'a pas toujours été comme ça ».
Voilà, une phrase qui laisse entendre donc que Sacha a bien connu papa, qu'il sait des choses potentiellement dérangeantes et donc potentiellement dangereuses pour sa famille, qui est donc menacée par ce secret que l'on devine très lourd. Et c'est pour cela donc que le couple va prendre la fuite avec sa fille Irène, direction la Grèce et plus précisément le Mont Athos. On en parle dans un instant.
Oh,
les voix du chœur byzantin serbe du monastère de Chilandar, situé sur le mont Athos. C'est un lieu que vous avez l'air de bien connaître, Christophe Audivio.
J'y suis allé, en fait, j'ai découvert le mont Athos quand j'avais une vingtaine d'années, pas pour des raisons religieuses, mais parce que j'aimais les zones grises, hein, comme la Birmanie, les endroits où on ne savait pas trop ce qui se passait. Le mont Athos, c'est vrai que j'en confonds avec les météores, mais c'est plus que ça, c'est ce territoire au cœur de l'Europe, 40 km sur 10, une péninsule, une presqu'île, où on n'accède pas par la terre parce que c'est fermé, on doit prendre un bateau et on arrive littéralement dans un autre monde qui a une autre constitution, où on obéit à des règles édictées il y a 1000 ans par un empereur byzantin.
Alors justement, un lieu interdit aux femmes et aux femelles. Pour quelles raisons
Les femmes, ça pouvait se comprendre, puisqu'en fait, il a donné ce territoire aux moines. Aux femelles, parce que c'est un territoire vraiment d'une beauté renversante. C'est vraiment le jardin d'Éden posé sur la mer, avec des
montagnes.
On vient
pour contempler l'idée d'un paradis possible, dit d'ailleurs un de vos personnages.
C'est très très beau, c'est une nature intacte, intouchée, des forêts, la mer Méditerranée qui scintille, tout au bout, une montagne qui culmine à 2000 mètres, qui descend, qui plonge dans l'eau, percée de grottes où vivent des ermites, et puis 20 monastères fortifiés qui datent de Byzance, hein, de l'époque, enfin de l'an 1000 à peu près, fortifiés qui semblent sortis d'un livre de contes de fées, plein d'or, d'encens. Et c'est vrai qu'on ne peut pas y aller sauf si on a ce qu'on appelle le diamonitirion, c'est un visa pour rentrer dans ce monde. Et dès qu'on prend le bateau à Ouranopolis, la ville du ciel, hein, ça s'invente pas. On est dans un autre monde, on est en bateau et puis on voit surgir monastère après monastère, ces constructions surgir et on est dans un autre monde. Et ils y vont là parce qu'ils pensent que là-bas ils pourront disparaître. Là-bas, ils seront en sécurité dans ce monde où on change de nom quand on arrive sur le mont Athos. On devient un autre au milieu de ces hommes qui se prennent pour des anges.
Donc, lieu éminemment romanesque, on l'a compris rien qu'en vous entendant et on le comprend peut-être encore plus en vous lisant, Christophe Audivio, avec cette lumière à la fois naturelle et spirituelle. Alors, vous vous étiez déjà baladé littérairement parlant sur le mont Athos il y a 20 ans, en 2002, puisque vous avez publié un roman intitulé justement « Interdit à toute femme ou femelle ». Pourquoi y revenir 20 ans après ?
Parce qu'en fait, ce livre est venu vraiment d'une image que mes livres souvent viennent d'une image. Cette image-là, une image mentale presque, c'était la main d'une petite fille dans la grosse main de son père, enfin la grande main de son père, au milieu d'une nature considérable, magnifique, feuillue, intacte, édénique, etc. Et en fait, très vite, souvent après écrire le roman, c'est essayer de répondre à cette image, de savoir pourquoi elle est advenue, qu'est-ce qu'elle raconte. Il y avait la sensation de danger, la sensation que ces deux, donc cette petite fille et ce père de famille, étaient en sécurité dans cette nature. Et puis très vite, en élargissant le champ, j'ai compris en fait que c'était là. Et comme le pouvoir de papa en France est un pouvoir qui a remis les valeurs chrétiennes au centre du jeu, cette petite famille se disent qu'au fond, l'endroit où ils seront peut-être en sécurité, où papa n'osera pas les toucher, c'est le dernier sanctuaire religieux, le plus sacré au cœur de l'Europe. Et donc, ils décident de partir là-bas. Malheureusement, le père et la fille peuvent partir et Mina ne peut pas embarquer.
Mina ne peut pas embarquer. Voilà, il se passe quelque chose. On ne va pas tout raconter, mais c'est vrai que c'est un moment clé du roman. Mais en tout cas,
clé, c'est le cas de le dire, d'ailleurs.
Voilà, clé, effectivement, c'est le cas de le dire, absolument. Et donc, Sacha va emmener Irène, une Irène travestie en garçon, évidemment, pour essayer de contourner la règle avec les cheveux courts et un nouveau prénom, Irénée, forcément. Nous sommes cette fois à la page 101 du livre.
Deux moines, la silhouette agrandie par le cylindre de feutre noir qui leur sert de couvre-chef, se retournent et la considèrent en souriant. Le plus âgé, visage très maigre, nez d'oiseau de proie, portant sur sa soutane un gilet de laine effrangé, est impressionnant. Il semble avoir 1000 ans et se penche vers son voisin, plus jeune, à la barbe clairsemée, et lui murmure quelques paroles à l'oreille. Le jeune se fait son interprète. « Quel âge a votre fils ?» En entendant le mot « fils », Sacha se rassure. « 7 ans. Tu t'appelles comment ?» Le jeune moine, cette fois-ci, s'adresse directement à l'enfant qui réfléchit avant de répondre. « Irénée. » Élan de fierté pour sa fille. Le test est réussi. « Première fois à la montagne ?»« Non, » dit la petite qui ne quitte pas du regard le vieux moine au profil d'aigle. « Je suis déjà allé au ski. » Le jeune moine regarde Sacha perplexe. La montagne dont il te parle, c'est la Sainte Montagne, Irénée. La petite rougit et baisse les yeux. Désolé, papa. Orthodoxe ? Reprend le jeune moine. Pas encore, dit Sacha. La réponse semble le satisfaire. Il rapporte le tout à l'oreille de son vieux collègue qui doit être son père spirituel. Les yeux de l'ancien se plissent alors comme pour mieux voir la petite fille avant d'allonger le bras dans sa direction et de poser la main sur sa tête. Elle ne bouge plus, les deux billes bleues de ses yeux fixées sur le vieillard. Il dit alors quelques mots inintelligibles, semble la bénir, puis plonge la main dans son gilet. Quand il la ressort, quelques cailloux d'un brun clair reposent dans sa paume. « De l'encens, dit son père, il te l'offre, prends, ça sent très bon. » Irène avance sa minuscule main vers celle, large et parcheminée du vieux moine, et saisit l'une des pierres qu'elle porte à ses narines. « Hum !» fait-elle. Le vieillard semble amusé et lui fait signe de s'approcher. Il verse cette fois tout le contenu de sa paume dans celle de la petite fille. « Merci !» dit-elle en leur souriant, fière de son trésor. Les deux moines les saluent de la tête et retournent à leur contemplation. Le père prend sa fille par l'épaule et se penche vers elle. « Je te félicite, Irène. Tu as bien répondu. »
Alors Irène va-t-elle finir par se trahir? C'est l'un des suspens qui tient en haleine le lecteur, Christophe Onodibio. Mais le plus grand suspense, c'est le contenu de cette fameuse clé USB que Mina, qui est donc séparée de son compagnon et de sa fille, garde sur elle et qui est, je crois que vous utilisez l'expression d'ailleurs, l'assurance-vie de Sacha. On y trouve un récit dans le récit qui explique la nervosité, pour ne pas dire plus, de papa à l'égard de Sacha. Alors évidemment, on ne va pas révéler ce qu'il y a dans la clé USB, forcément, Christophe Onodibio, mais je voudrais juste que vous commentiez une phrase qui vient à l'esprit de Mina quand elle prend connaissance du contenu de cette clé USB. Et elle le fait de façon très progressive dans le cours de votre récit. Cette phrase est la suivante. « Aujourd'hui, tout s'appelle roman, même la réalité. » Qu'est-ce que vous pensez?
Bah oui, parce que c'est un... Pour en revenir à la politique, quand on veut être élu, il s'agit de raconter une histoire, ce qu'on appelle du storytelling. C'est aussi un livre, trouver refuge, sur les histoires. Les histoires qui nous façonnent dans la famille. C'est-à-dire que c'est un père aussi qui doit transmettre à sa fille le nécessaire sans savoir combien de temps il leur reste ensemble, parce que même sur le mont Athos, le danger est là. C'est un livre sur les secrets, vous l'avez dit, un secret de jeunesse du chef de l'État, partagé par le personnage du livre. C'est un livre sur les secrets dans le couple aussi, puisque, vous l'avez dit, Mina va découvrir en même temps que les lecteurs et les lectrices ce secret, ce qu'il y a sous cette phrase « Papa n'a pas toujours été comme ça » et pourquoi le pouvoir panique totalement. Et effectivement, il s'agit d'histoire, il s'agit de fiction, il s'agit de roman. Pour moi, tout est roman, tout est fiction. Et je pensais, le livre est sorti quelques jours après l'agression de Salman Rushdie. Salman Rushdie disait que le boulot de l'écrivain aujourd'hui, c'était de raconter des histoires qui soient plus puissantes que celles que racontaient les bad guys, comme il disait. Mmh. Les bad guys, c'est-à-dire les méchants. Les méchants, c'est qui, à la fois, les hommes politiques qui utilisent, par exemple, la religion pour arriver au pouvoir, mais aussi, par exemple, la religion à des fins politiques, ce qui arrive aussi. Donc, tout est roman, tout le monde s'écrit sa propre histoire. Et on grandit aussi en se racontant notre propre histoire. Et là, ce qui m'intéressait dans le livre, c'est que... un homme politique, un pouvoir, notamment autoritaire, a besoin de raconter une histoire. Mais quand la véritable histoire surgit, d'où la panique, comment on fait? C'est histoire contre histoire. Et c'est ce que va expliquer papa aussi dans une autre scène. Mais on ne va pas la raconter
non.
Là.
Alors...
Mais c'est ça, c'est aujourd'hui la force de la fiction. On pense que la réalité est importante, mais la réalité est forgée par des fictions qu'on raconte ou qu'on se raconte.
Alors, il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire.
Et je vous dirais même une chose, d'ailleurs, parce que ça m'intéresse beaucoup, la post-vérité, vous savez. Oui. On dit, aujourd'hui, il n'y a plus de vérité. C'est Trump qui est ça. Il n'y a que des perceptions. Papa dit ça aussi. Il n'y a pas de vérité. Quand on avait des chefs d'État qui vous disent « Bah non, c'est noir, alors que c'est blanc », on en revient aussi à Orwell. Le pouvoir est conquis quand, justement, l'histoire est devenue plus forte que la réalité. Et ça m'intéresse beaucoup dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de raconter des histoires, pour mettre à nu ces mécanismes.
Alors, il raconte beaucoup d'histoires, justement, Sacha. À Irène, les moines aussi racontent des histoires à la petite fille. Il y a les récits de la Bible et du christianisme. Il y a, par exemple, l'histoire de Saint Christophe. J'imagine que ce n'est pas complètement un hasard, Christophe Onodibio. En tout cas, on est vraiment dans la transmission... de Sacha à Irène, mais aussi à travers Irène au lecteur qui ne connaît pas forcément tout ce que vous racontez, ni sur le christianisme, ni sur la Grèce antique, ni sur la mythologie grecque, parce que le premier livre que l'on découvre dans le livre, c'est le livre qu'Irène a avec elle, La petite fille, c'est un livre de récits mythologiques,
oui.
Même sur l'étymologie des mots. Et vous insistez beaucoup là-dessus, sur l'étymologie, Christophe
oui.
de Libio. Comme si, en fait, à travers ce livre, vous vouliez mettre en lumière cet héritage grec, finalement, dont les Occidentaux sont les enfants.
Je pense que, oui, alors les enfants, j'aime bien que vous utilisiez le mot enfant. L'idée qu'on est transmis, nous aussi. On est le produit d'une longue histoire. On a reçu des choses, on doit aussi les transmettre. Mais c'est l'idée qu'aujourd'hui, c'est Camus qui disait que quand on nommait mal les choses, on ajoutait du malheur au monde. Aujourd'hui, bien sûr, on le constate tristement, on fait dire aux mots d'autres choses. Il y a des mots qui sont inflammables, il y a des mots qu'on invente aussi pour définir certaines notions. Quand on entre grâce à l'étymologie, mais qui est très simple, déjà qui est un plaisir, moi j'ai fait ça enfant, on apprend, il y avait un livre que j'aimais qui s'appelait Le trésor des racines grecques, où on rentrait dans la chair des mots.
Quand on vous l'avez vécu de façon plutôt ludique.
Exactement, quand on rentre dans la chair des mots, par exemple le mot enthousiasme, quand on est enthousiasmé, enthousiasmant, en fait ça veut dire que le Dieu est en vous, en grec. C'est beau, je trouve, cette idée. Bah, c'est pour ça qu'on va bien quand on est enthousiaste. C'est que si le Dieu est en nous, bah, c'est normal, on a une force supplémentaire. Mais cette idée qu'aujourd'hui, il s'agit, dans le livre, de transmettre à une petite fille, déjà de l'initier à ce monde, hein, ce mont Athos, avec que des hommes. On dit que la Sainte Montagne, c'est la montagne, donc le mont Athos, où les hommes meurent mais ne naissent pas. C'est normal, parce qu'il n'y a pas de femme et pas d'enfant. Mais c'est l'initier, et avec elle, le lecteur, à toutes ces histoires formidables qui ont aussi façonné l'Europe. Et je voulais montrer l'émerveillement de cette petite fille qui est une petite citadine, qui se retrouve dans ce monde qui n'a pas bougé depuis l'an 1000, dans cette nature formidable, et qui regarde les églises sans être, ni son père d'ailleurs, des croyants ou pas. D'ailleurs, Sacha le dit, il n'y croit pas, lui dit « mais t'as l'air triste », il dit « bah ça serait peut-être plus simple au fond, oui, si j'y croyais ». Mais les églises couvertes de fresques orthodoxes sont des merveilleux livres d'images. On a l'impression, quand on entre dans ces églises peintes, il y a plein de légendes sur les murs, et forcément le père va faire ce qu'il peut avec l'aide des moines pour raconter ces histoires qui sont absolument formidables, et que je voulais raconter parce que il y a une belle histoire sous Trouver refuge et sous le mont Athos. C'est que le mont Athos a été créé à cause d'une histoire de refuge qu'il fallait trouver. Les moines vous racontent que la Vierge se promenait avec Saint Jean en allant pour aller voir Lazare le ressuscité. Il y a eu une tempête. Elle a trouvé abri sur le mont Athos. Elle a trouvé ça tellement beau qu'elle a demandé à son fils, donc au ciel, de lui consacrer ce lieu. Donc en fait, ce monde d'hommes, paradoxalement, est entièrement consacré à une figure féminine, une figure maternelle, peinte dans toutes les églises avec son fils, la figure de la Vierge. Et c'est ce que je voulais montrer aussi, c'est que le message, finalement, d'ouverture au monde, de transmission d'humanisme, il va venir de ce mont Athos, et il est envoyé directement à cette France de 2027 qui, elle, utilise la religion pour opposer les gens. Donc je voulais montrer que, quand vous parliez de paradis tout à l'heure, l'idée de paradis, c'est aussi peut-être avant tout un paradis terrestre qui nous aide à rester humain, même s'il y a le divin, quoi qu'on mette sous la notion de divin. C'est ça qui nous reste, à rester humain. Et moi, la question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants par tant de bourrasques comme aujourd'hui, quand le temps manque et que la violence règne et que le culte de la force dépasse celui de la beauté.
Oh,
Neranzula, le petit oranger, la voix de la chanteuse et actrice grecque Irène Papas sur une musique de Vangelis. Irène Papas qui est décédée le 3 septembre dernier dans VMDN sur RFI avec Christophe Onodibio pour son roman Trouver refuge aux éditions Gallimard. Alors Irène, c'est donc, on l'a compris, le prénom de la fille de Sacha et Mina, cette petite fille de 7 ans qui débarque avec son papa sur le mont Athos. Et un prénom, c'est un peu le premier cadeau, la première chose que les parents transmettent à un enfant après leur ADN, bien sûr. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots pourquoi Sacha et Mina ont appelé leur fille Irène.
En fait, c'est surtout Mina, et Sacha a capitulé. Irène, donc Mina est professeure de spécialiste de Byzance et de la Renaissance, hein, c'est un mot important hein, dans le livre. Et donc, elle a voulu donner ce nom à Irène, qui était le nom d'une reine de Byzance et qui était la première femme à régner sur ce grand empire byzantin qui fascinait hein, tout le monde à l'époque. Parce que l'une de mes idées aussi dans le livre, c'était de perturber l'ordre patriarcal masculin du mont Athos, interdit aux femmes et aux femelles, hein, on l'a dit, donc aux animaux femelles aussi, en y emmenant justement cette féminité en germe qui est le personnage d'Irène, de montrer une petite fille, certes déguisée en petit garçon, hein, parce que ils sont clandestins hein, sur cette montagne, mais de montrer cette féminité, de perturber l'ordre établi sans mentir, sans aller dans le tabou non plus, puisqu'en fait, dans l'histoire, le mont Athos a servi de refuge aussi à un certain nombre de femmes aussi dans l'histoire, et puis à des populations qui en ont eu besoin. En fait, c'est le côté droit d'asile. Voilà.
Alors, donc Irène, hein, on comprend très vite que dans ce roman, aucun prénom n'a été choisi au hasard. Je ne sais pas si je me trompe. En tout cas, Sacha, c'est le diminutif d'Alexandre. Ouais. Et papa, il s'appelle Alex. Donc, autre diminutif d'Alexandre. Donc, Sacha et Alex, est-ce que finalement, ce ne serait pas au fond deux facettes d'une même personnalité ?
Oui, c'est les deux choix qui se posent peut-être à un homme aujourd'hui. Pour le coup, je parlais des femmes, mais à un homme aujourd'hui, c'est-à-dire deux modèles de paternité. En fait, un modèle de paternité politique, de surveillance, autoritaire, tout en étant charmeur, d'où le surnom de papa. Et puis la paternité humble, qui doute, qui est aimante, qui ne veut surtout pas trop influer sur l'avenir de cette petite fille qui va devenir une jeune femme, et c'est la chose qui l'émeut le plus au monde, quoi, quand il la regarde. Et je voulais qu'il y ait ces passages entre le père et la fille, les questions qu'elle lui pose, et le regard de ce père sur cette petite fille qui, pour moi, représente l'avenir, représente peut-être l'espoir possible d'un retour à l'humain. Mais effectivement, ce sont deux figures en miroir, deux figures qui s'opposent, qui ont été liées, mais qui ont divergé. Et c'est aussi la question de... Est-ce qu'on se trahit pas ? Est-ce que le but de la vie n'est pas d'essayer de ne pas se trahir, de ne pas trahir le garçon qu'on a été à 20 ans ? Et c'est aussi toute la question du livre, et toute la question de qu'est-ce que c'est que grandir ? Qu'est-ce que c'est que devenir un être humain ? Qu'est-ce que c'est que de se développer ? Qu'est-ce que c'est que de s'épanouir ? Donc toute cette question de l'éducation, de la transmission, et surtout de l'ouverture au merveilleux et à la beauté, c'est autant un roman politique qu'une tentative d'ode, d'éloge de la beauté, de l'ouverture à la beauté du monde.
Avec évidemment de très beaux passages, effectivement, sur ce lien, cette transmission entre un père et sa fille. Je conseille vraiment le livre à tous les jeunes papas. Par exemple, il y a une scène magnifique. On est le matin, Irène se réveille et la lumière entre par la fenêtre. Nous sommes à la page 282.
C'est trop beau, papa. Il est heureux d'entendre cette phrase. Elle suffirait. Mais Irène veut tout savoir et il ne sait pas tout. Les questions s'enchaînent, il fait ce qu'il peut et n'a pas le droit de perdre patience avec elle. Il se demande si Mina serait satisfaite de la façon dont il s'occupe de leur fille, si elle trouverait qu'il est un bon père. Il fait de son mieux. Personne ne lui a appris. Personne ne vous apprend jamais à être père. Il pense au sien. Il a fait, lui aussi, ce qu'il a pu. Et ses petits visages entourés de pétales rouges, comme des fleurs humaines. Des anges à six ailes. Ce sont elles que tu prends pour des pétales. Elles sont rouges parce qu'elles sont en feu. L'amour de Dieu les brûle. Ça leur fait mal ? Non, car l'amour de Dieu ne les consume pas. Au contraire d'autres amours, mais elle est trop petite pour qu'il lui en parle. Il a encore essayé de joindre Mina avant d'arriver au monastère. Il s'inquiète vraiment pour elle. Cela ne sonne même plus. Une voix sans âme indique que le numéro n'existe pas, et à présent ici, c'est lui qui est hors réseau. La grande croix qui couronne la coupole de l'église devrait pourtant faire une bonne antenne. Ça veut dire quoi, consumer ? C'est compliqué de trouver les mots, mais c'est aussi sa mission de lui apprendre à bien nommer les choses. Il fournit les pièces du moteur, à elle ensuite de le faire démarrer pour aller dans la direction qu'elle aura choisie. Il la regarde, si concentrée, si bavarde. Dans son cerveau, des millions de synapses doivent s'activer. Devant une icône de la Vierge drapée d'un manteau rouge sang, au visage d'une infinie douceur, bouche fermée mais souriant dans une grâce de Joconde, tenant son enfant d'une seule main contre elle, Sacha apprend à Irène les différents noms qu'on lui donne dans cette belle langue grecque qu'on parlait à Byzance. Glycophyllousa, au doux baiser. Galactotrophousa, qui nourrit de lait. Il y a aussi celle qui répond d'une voix terrible, mais je ne sais plus comment on le dit. Elle peut donner de doux baisers et répondre d'une voix terrible. Pas en même temps, pas aux mêmes gens, mais oui, elle peut être terrible avec ceux qui voudraient abîmer son jardin. Mais nous, on ne l'abîme pas. Pourquoi tu dis ça, ma chérie? Je suis une fille, je n'ai pas le droit d'être là. Sacha se retourne, anxieux qu'on ait pu l'entendre, mais ils sont seuls. Ne te fais pas de soucis, elle a toujours protégé ceux qui venaient trouver refuge ici. Irène laisse passer quelques secondes. Trouver refuge contre quoi, papa? La question l'embarrasse, alors il esquive la laideur du monde.
Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une esquive, d'ailleurs. Christophe Audibio, je ne crois pas. Mais alors, la beauté du monde, justement. Ouais. Puisque parlons de la beauté du monde, c'est plus intéressant que la laideur du monde, finalement. Bah, ouais. C'est aussi ça que Sacha veut transmettre à travers ce qu'il a appelé le miroir de la princesse. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est ce miroir de la princesse?
Oui, en fait, il a un petit cahier qu'il fait pour elle, où d'abord, il note tout ce qu'il aime, lui, dans la vie, les petites choses qu'il a ramassées pour sa fille. Par exemple, il fait de la plongée sous-marine, donc il a ramassé un petit morceau de corail. Alors, il a attaché avec du scotch ce petit morceau de corail sur une page, et puis il a fait un petit texte pour lui transmettre des émotions très simples, des bonheurs très très simples de la vie, mais dont il pense qu'ils sont essentiels. Là, le passage que vous avez lu me plaît beaucoup parce que c'est aussi évidemment un père et sa fille. La mère est absente. La mère est absente et la petite fille demande quand vient maman. Donc il faut aussi lui parler de maman. Et il trouve ce personnage aussi, cette vierge avec son enfant, qui est la figure maternelle en fait sur ce lieu-là. Donc il s'agit de célébrer la beauté du monde. L'amour aussi sous toutes ses formes, l'amour filial, l'amour des enfants. Et puis, une des plus belles choses, vous parliez de la beauté du monde, et moi, c'est ce que j'ai aimé écrire dans ce livre, c'est que c'est à la fois un père qui transmet, mais c'est un père qui est transmis, qui est lui-même initié à la beauté du monde par sa fille.
Par la pureté, par la spontanéité, dirais-je.
L'innocence, la curiosité, l'espièglerie des enfants qui, en fait, lui tient chaud dans cette traque, hein, dans cette cavale, lui tient chaud. Et l'émerveille aussi, le simple spectacle de cette petite fille regardant les fresques, marchant dans la nature, cueillant des citrons, voulant se baigner alors que c'est interdit. Et finalement, il va essayer de faire en sorte de l'exaucer. Quelle est cette baignade? C'est ce simple spectacle d'un père qui regarde sa fille et qui est sorti un peu de son angoisse par cette beauté de l'enfance, cet espoir en fait qu'est l'enfance.
Quelques mots sur la mère, Mina, Christophe Audibio, parce que vous consacrez aussi quelques chapitres, oui. Et pas qu'un peu, hein, à la mère qui est donc loin et de son compagnon, avec qui on ne peut pas dire que le couple soit très très heureux. Mais quoique, disons qu'elle se pose, oui, des questions et loin de sa fille.
C'est un couple qui a des secrets et cette femme, et je voulais que ce soit un portrait de femme d'aujourd'hui aussi très volontaire, mais qui doute aussi. En tout cas, c'est elle qui veut absolument arrêter la catastrophe en cours et donc qui remonte le cours, qui elle va revenir à Paris, hein, c'est ça.
C'est une enquêtrice.
Pour savoir déjà avec cette fameuse clé, avec cette assurance vie, qui va découvrir en même temps que nous, les lecteurs, le récit et qui n'est pas là. Et ils ne peuvent pas communiquer parce que si j'ai choisi aussi le mot Athos, c'est qu'il n'y avait pas de communication, les portables ne sont pas là. Au royaume de Dieu, il n'y a pas de portable, les communications sont suprasensibles. Mais comment on fait justement pour prendre des nouvelles de l'autre, pour laquelle et pour lequel on s'inquiète? Eh bien, c'était aussi une des clés du roman. Et Mina, j'étais très très content de pouvoir aussi. C'est la première fois que j'écris pas à la première personne et que je peux comme ça me promener dans différents personnages et donner une voix à Mina, qui est un personnage que j'aime beaucoup. De belle professeure, transmettrice, amante et aussi un personnage de mère.
Mais ne pas écrire à la première personne, c'est quelque chose qui vous est venu comme ça très naturellement?
Non, c'est venu au début, j'avais commencé à la première personne et puis c'est le personnage de Mina qui m'a fait totalement changer et qui m'a, et j'ai eu l'impression soudain, j'écrivais peut-être avec quelques touches et d'avoir des claviers multiples autour de moi et qui permettait de surtout multiplier les points de vue et de montrer comment une situation peut être vue suivant qu'on ait le père ou la mère ou le chef d'État d'ailleurs.
Le livre, il est dédié à vos enfants, Christophe Onodibio, oui. Alma et Hector. Ouais. Vous avez emmené Hector au Mont Athos.
Oui, je l'ai emmené sur le Mont Athos quand il était enfant. Donc j'ai fait, voilà, c'était et ça a été une expérience éblouissante. Voilà.
Et vous avez raconté à Mina, j'imagine.
Et oui, bien sûr, elle est au courant de tout.
Merci beaucoup, Christophe Onodibio. Trouvez refuge, votre dernier roman est paru, je le rappelle, aux éditions Gallimard. For you, my darling, your boy, don't tell him. Try my dad for my head to munch. To sap, who come, I lead you. To sap, who come, I lead you. For you, my baby, I know feature. Try my dad for my head to munch. To sap, who come, I lead you. It's Phil Bill. J'ai pas le quai, pas le quai. J'ai pas le quai, pas le quai. J'ai pas le quai, pas le quai. You mo. J'ai pas le quai, pas le quai. Bloqué, la voix du chanteur camerounais Loco dans VMDN sur RFI, direction le Cameroun justement. Plus précisément Yaoundé qui accueille jusqu'au 30 septembre plus de 200 écrivains dans le cadre d'un festival baptisé Livre en Liberté. Sur place, notre correspondant Fabien Essiane.
Des groupes de danse traditionnelles mettent de l'ambiance au Musée National de Yaoundé. Le festival du Livre en Liberté a donné le ton pour sa 70e édition. Cette année, c'est la rencontre entre le Cameroun et Haïti. Martin Christian Bendeya Ekombe est le président du Rotary Yaoundé Colline. C'est cette association qui a fait venir ce festival au Cameroun et il est comblé.
Pour nous, c'est une fierté et je demande vraiment aux jeunes, je demande vraiment aux écrivains d'être là afin que nous puissions, n'est-ce pas, partager ce mélange de cultures en ce qui concerne l'écriture. Le Camerounais, et non seulement le Camerounais, mais l'Africain en général, on a un problème pour lire. On a un problème pour acheter des livres. Pour les populations, n'est-ce pas, qui sont informées de cet événement, je leur dis, il faut être là.
Près de 300 auteurs venus du Cameroun et d'ailleurs sont présents. Il y aura à cet effet des sessions, des tables rondes, des débats thématiques sur l'histoire, la culture ou encore le récit de l'intime et des dédicaces. On pourra par exemple rencontrer ici des auteurs comme l'enseignant de philosophie camerounais Fridolin Kay. Il dénonce dans ses ouvrages non seulement les travers du Cameroun, mais aussi la politique française en Afrique.
La France doit être inquiète parce que ça fait plus de 60 ans qu'elle est là.
tout repu.
Chaque peuple a ses ambitions. Chaque peuple veut avoir droit au soleil. Ce qui est en jeu, c'est notre avenir. Notre avenir dépend des sacrifices, des sueurs, des larmes et du sang de nos ancêtres.
On aura aussi Claude Bertin Okala et Toga qui, lui, consacre sa plume à l'ethnogenèse et à l'onomastique des peuples autochtones comme les petits dans la partie centrale du Cameroun.
Le fondateur du Mvok était un Tomba, c'est-à-dire un seigneur, un Ti. Et au-dessus de Ti, de Mbintoum, c'est le chef de lignage. Au-dessus de Mbintoum, l'Onjo. L'Onjo, c'est le porte-parole. Après l'Onjo, le Zomlo. Au-dessus du Zomlo, il y a l'Ongangang, qui garde le pays. Et l'ensemble de tout ça est coordonné par le Conseil des Sages, qu'on appelle le CNA.
Puis des Haïtiens, comme l'écrivain journaliste Philomé Robert et le fondateur du festival Clément Libénois.
J'ai choisi le Cameroun parce que depuis mon enfance, ce beau pays d'Afrique centrale m'habitait. Pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est qu'il y a une ville qui s'appelle Lembé, tout comme cette ville d'Haïti située dans le département du Nord où je suis né. Et c'est dans cette ville même que j'ai fondé la bibliothèque Georges Kassradio Lembé, la première bibliothèque de cette ville, qui est aussi l'institution porteuse de la foire Livre en Liberté.
Cette rencontre entre les écrivains sera donc le lieu idéal parce qu'il servira de grande vitrine à la littérature camerounaise, africaine et d'ailleurs.
C'est le moment de retrouver des grands écrivains de d'autres cultures comme Clément Benoît, comme Johnny Aristène ou alors encore comme Philomé, un des présentateurs vedettes de France 24.
Un bel ancrage. Et les auteurs montreront tout au long de cette rencontre du donner et du recevoir comment la culture peut rassembler les peuples et aussi critiquer le politique. Ce n'est donc pas seulement symbolique. Même si les chiffres de vente des livres sont à la baisse en Afrique, la littérature continue, bon en mal an, de faire rêver des jeunes.
On a des jeunes lycéens, n'est-ce pas, qui essayent de se forger dans l'écriture.
Et malgré ce sombre tableau du livre en Afrique, le marché du livre tente à se redessiner au jour le jour et à mesure que l'on avance vers le futur.
Reportage de Fabien Essiane pour VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain, bien sûr, avec un autre Christophe, le chanteur Christophe Willem, cette fois pour son nouvel album Panorama chez Sony Music. À demain et vous m'en direz des nouvelles.